Radio Kapi.
Oh, Kapi. À la présentation du journal, Noël Alousie Toukabambi.
Début ce mercredi de l'opération d'évacuation de Goma vers Kinshasa, des militaires et des policiers congolais, ainsi que de leurs dépendants, opération menée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR, intermédiaire neutre et facilitateur dans cette cause. Ces personnes totalement désarmées étaient sous la protection depuis plus de 3 mois de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC à Goma après la prise de contrôle de la ville par le M23. La paix et la stabilité ainsi que le développement dans la région des Grands Lacs, c'est à cela que se sont engagés des représentants de 6 pays réunis ce 30 avril à Doha au Qatar. La rencontre entre dans le cadre du prolongement du sommet trilatéral du 18 mars dernier entre les dirigeants congolais, rwandais et qataris et dans la dynamique de la déclaration des principes signée à Washington entre Kinshasa et Kigali. L'invité de Radio Okapi ce soir, c'est la porte-parole de la MONUSCO. À la fin de ce journal, Kadilo va revenir sur l'opération de l'évacuation vers Kinshasa des soldats et des policiers congolais accueillis dans les installations de la MONUSCO à Goma depuis 3 mois, une opération menée par le CICR. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Nous commençons par le Nord Kivu. Début ce mercredi de l'opération d'évacuation de Goma vers Kinshasa, des militaires, policiers et membres de leurs familles. Ces personnes totalement désarmées étaient sous la protection depuis plus de 3 mois de la mission des Nations Unies pour la stabilisation à RDC à Goma après la prise de la ville par le M23. L'annonce a été faite ce jour à l'occasion d'un point de presse animé à Goma par Myriam Favier, chef de sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Nord Kivu. Ronéline Tibonera.
L'opération qui s'étendra sur plusieurs jours est menée à la demande conjointe des ministères congolais de la Défense, de la MONUSCO et de l'Alliance Fleuve Congo, précise le CICR. L'Organisation internationale humanitaire affirme qu'elle ne fixe pas les termes de la négociation, mais offre ses bons offices comme facilitateur neutre pour la mise en œuvre de l'opération. D'autre part, le CICR a veillé à ce que toutes les personnes donnent leur consentement avant le départ de Goma et appelle l'ensemble de parties au respect du droit international humanitaire durant toute la durée de l'opération. En termes de l'accord conclu avec les CICR, les acteurs concernés se sont engagés à assurer la sécurité des personnes faisant partie des convois et à œuvrer pour la réussite de l'opération. Une fois arrivés à Kinshasa, ces personnes seront remises aux autorités de la RDC pour leur prise en charge, indique les CICR. Dans un communiqué publié ce même mercredi, le chef de la délégation du CICR en RDC, François Moréon, rappelle que ce rôle d'intermédiaire neutre peut contribuer à résoudre de problèmes humanitaires complexes en réduisant les conséquences pour les populations.
Et bien évidemment, la MONUSCO se félicite du démarrage effectif de l'opération de transport des centaines de soldats, des policiers et de leurs dépendants de Goma vers Kinshasa par le CICR. Dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi, la mission onusienne indique que ces personnes qui ont trouvé refuge dans ces installations y sont restées pendant 3 mois après la prise de la ville de Goma par le M23. Selon Kadilo, porte-parole de la MONUSCO, cette opération concertée a pris en compte le besoin spécifique exprimé par chaque personne. Elle est au téléphone de Ronéline Tibonera.
Cette opération est le fruit d'une coordination étroite entre la MONUSCO, les autorités congolaises et le Comité international de la Croix-Rouge, qui a joué un rôle d'intermédiaire neutre. Les discussions ont été menées dans un très bel esprit, avec l'objectif commun de garantir la sécurité et la dignité des éléments concernés. Ce consensus a permis de mettre en place une opération complexe, mais nécessaire dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile. À la suite de la prise de contrôle de certaines zones de la ville de Goma, par le mouvement du 23 mars, fin janvier 2025, plusieurs éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise se sont réfugiés dans les installations de la MONUSCO pour des raisons de sécurité. Conformément à son mandat et aux règles des Nations Unies, la mission a assuré leur désarmement immédiat, puis leur protection, notamment leur intégrité physique. Il s'agissait d'une mesure temporaire dans l'attente d'une solution concertée avec les autorités nationales et les partenaires.
De leur côté, les FRDC saluent aussi le lancement de l'évacuation vers Kinshasa des militaires, policiers et membres de leur famille protégés depuis plus de 3 mois par la MONUSCO. Dans un communiqué publié ce mercredi par leur porte-parole, Général Sylvain Ekenge, les FRDC remercient le CICR pour son rôle d'intermédiaire neutre et facilitateur à la demande du gouvernement gouvernement congolais. L'armée exprime aussi sa gratitude à la MONUSCO pour la protection assurée dans un contexte difficile, conformément à son mandat. Elle souhaite que l'opération se poursuive dans le respect des conventions de Genève, du droit international humanitaire et des engagements des parties. Et puis le chef des forces de défense de l'armée ougandaise UPDF, général Muhoozi Kainerugaba, a rencontré hier mardi à Entebbe en Ouganda des généraux des FRDC. Selon des sources sécuritaires, les échanges entre les deux parties ont tourné autour de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Il a été aussi question de l'évaluation des opérations conjointes Ushuja de deux armées contre les rebelles des ADF dans les territoires de Beni au nord Kivu, dans ceux de Irumu et Mambasa dans la province de l'Ituri. Martial Kizabi.
Cette rencontre a eu lieu précisément au palais général Museveni Building à Entebbe. Côté ougandais, les chefs d'état-major général de l'armée ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba, entouré d'autres officiers de UPDF, face à eux, deux généraux des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC. Abdallah Nyembo, commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, et le général Bruno Mandevu, commandant des opérations Sokola 1, Grand Nord, accompagné d'autres officiers de FRDC. Des sources sécuritaires rapportent que les deux délégations ont discuté de la redynamisation des opérations conjointes au Soudja pour la traque des rebelles des ADF à Irumu et Mambasa du Turi et dans le Grand Nord Kivu, notamment dans le Rwenzori, les territoires de Beni et Lubero. Lancée depuis le 30 novembre 2021, l'opération au Soudja a réussi à réduire la capacité de nuisance des ADF dans la région des Zunguluka, Boga et Chabi, ainsi que dans les Rwenzori et sur la route Kainama-Beni, selon plusieurs rapports. Cette rencontre intervient dans un contexte où l'armée ougandaise a renforcé sensiblement sa présence en hommes et en matériel de guerre dans les territoires de Djougou et Mahagi à Ituri. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous en parlions dans le sommaire. Des représentants de 6 pays, dont la RDC, le Rwanda, le Qatar, le Togo, les États-Unis et la France, se sont réunis ce mercredi à Doha, au Qatar. Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement du sommet trilatéral du 18 mars dernier entre les dirigeants congolais, rwandais et qataris et dans la dynamique de la déclaration de principe signée à Washington le 25 avril dernier entre Kinshasa et Kigali. Selon un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères, les participants ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans la région des Grands Lacs. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les dialogues en cours entre les gouvernements congolais et la rébellion de l'AFC M23, ainsi que sur la crise humanitaire persistante. Les participants ont salué la déclaration conjointe entre la RDC et l'AFC M23, facilitée par le Qatar, marquant un engagement mutuel pour cesser les faits. Ce dernier est considéré comme essentiel pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Ils ont insisté sur la nécessité d'aborder les causes profondes du conflit par les dialogues dans le respect des résolutions de l'Union africaine et des Nations unies ainsi que de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États concernés. Les délégués ont également salué les avancées ici du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février 2025 à Dar es Salaam et les efforts de médiation entrepris par l'EAC et la SADC sous l'égide de l'Union africaine et du président togolais Fornia Singwe. Ils ont enfin réaffirmé leur volonté de poursuivre les dialogues et de renforcer l'action collective pour un avenir pacifique en RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
En plus bref, au sud Kivu, trois personnes ont été tuées à Uvira dans deux quartiers différents la nuit dernière par des hommes armés non autrement identifiés. Au quartier Songo, ces bandits ont arraché la vie à deux personnes. Une troisième victime a succombé à ses blessures à Kanvivira. La raison de ces meurtres reste inconnue. Pour rappel, Uvira est devenu le siège de facto des institutions provinciales de l'administration publique depuis la prise de la ville de Bukavu par l'AFC M23. C'est à Uvira où fonctionne le gouvernement provincial, les services de sécurité, l'Assemblée provinciale ainsi que d'autres services administratifs de l'État. À Kinshasa, l'Assemblée nationale appelle à la suspension immédiate des poursuites judiciaires contre le député Augustin Matata Ponyo dans l'affaire Bukangalonzo. S'adressant au président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Vital Kamerhe dénonce la violation de l'article 107 de la Constitution qui interdit des poursuites judiciaires contre un parlementaire sans que ses immunités ne soient levées. Il rappelle que la plénière du 17 avril dernier avait déjà dénoncé le fait que l'ancien premier ministre ministre Augustin Matata est poursuivi et jugé par la Haute Cour sans que ses immunités n'aient été préalablement levées. Michel Kifindangoy.
Dans une correspondance officielle adressée au président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale rappelle que toute action judiciaire visant un député doit impérativement être précédée par la levée de ses immunités. Vital Kamerhe évoque les prescrits de l'article 107 de la Constitution qui dispose notamment qu'aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. S'appuyant sur cet article de la Constitution, le speaker de l'Assemblée nationale estime que Matata Ampogno est poursuivi de manière irrégulière, faute d'un acte officiel actant la levée de ses immunités parlementaires. Pour Vital Kamerhe, sans vouloir entraver le bon fonctionnement de la justice et en adhérant à la lutte contre l'impunité, le président de la Haute Cour devrait constater ce préalable incontournable. Notez par ailleurs que dans cette affaire, un collectif de 50 députés a dénoncé vendredi dernier l'outrage à l'Assemblée nationale et a exigé la démission du procureur général près la Cour constitutionnelle.
En ce jour de reconnaissance nationale, nous rendons hommage aux enseignantes et enseignants de la République, à celles et ceux qui, dans les villes comme dans les villages, se lèvent chaque matin pour transmettre le savoir, éveiller l'esprit critique et forger les consciences parfois dans des conditions difficiles. C'est en ces termes que s'est exprimée la ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté à l'occasion ce 30 avril de la Journée nationale de l'enseignement. Pour Aïssa Malou, l'école doit redevenir le berceau de notre résilience collective. Enseigner pour transformer, former pour bâtir, tel est le thème de cette année. Suivez plutôt la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté dans ses propos recueillis par Blaise Shindani Kambala.
À travers ce thème, nous réaffirmons une vérité simple mais fondamentale. L'éducation est le premier chantier de toute transformation durable. Former, c'est bâtir des hommes et des femmes capables de façonner leur avenir et de construire la nation. À cette occasion, je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui, chaque jour, avec patience et abnégation, transmettent nos savoirs et valeurs dans nos écoles. Nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos cadres administratifs portent l'espérance de la République. Grâce à eux, et malgré les défis, notre école avance. Grâce à eux, l'idéal d'une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité devient peu à peu une réalité. Ces dernières années, ensemble, nous avons semé les graines de la transformation. Nous avons élargi l'accès à l'éducation grâce à la politique de gratuité chère au président de la République, chef de l'État. Nous avons bâti en construisant plus de 400 nouvelles écoles et en lançant dès cette année la réalisation de 3000 salles de classe supplémentaires. Nous avons amélioré la qualité en renforçant la formation continue des enseignants, en réformant nos examens nationaux et en intégrant progressivement le numérique dans l'apprentissage.
Journée nationale de l'enseignement encore, au Sud Kivu. Cette journée a été commémorée ce mercredi à travers une célébration eucharistique en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu. La messe a été dite à l'intention des enseignants, mais surtout de ceux en service depuis 50 ans et plus. Léopold Ngandira, enseignant retraité de l'école primaire, revient ici sur les bons et les mauvais moments de sa profession. On l'écoute.
J'ai débuté la carrière enseignante en 1975. À cette période-là, sous Mobutu, l'enseignant faisait un travail qui n'est pas payé pendant 6 mois. Après 6 mois de travail, on donnait l'argent, et cet argent qu'on appelle le rappel de 6 mois. Cet argent était vraiment suffisant. Makuta, en Zaïre, et cet argent me permettait de louer une maison. Cet argent me permettait aussi de vivre. Aisément, sans beaucoup de problèmes, je me sentais très bien. C'est après les années 90 que les choses ont commencé à dégringoler. J'ai été retraité en 2022. Les allocations d'effet carrière qu'on nous a données étaient vraiment très minimes. Donc aujourd'hui, nous les enseignants retraités souffrons vraiment. Nous sommes vraiment très délaissés.
L'invité. Notre invitée s'appelle Kadilo, elle est la porte-parole de la MONUSCO. Elle revient sur l'opération de transport vers Kinshasa des soldats et policiers congolais accueillis dans les installations de la MONUSCO à Goma, une opération menée par le CICR. Kadilo répond aux questions de Ronéline Tibonera.
Madame Kadilo, bonjour.
Bonjour.
Dans un communiqué, la MONUSCO salue le transport des Goma vers Kinshasa de plusieurs centaines de soldats FARDC et policiers. Comment les différents acteurs sont-ils parvenus à cet arrangement?
Cette opération est le fruit d'une coordination étroite entre la MONUSCO, les autorités congolaises et le Comité international de la Croix-Rouge, qui a joué un rôle d'intermédiaire neutre. Les discussions ont été menées dans un très bel esprit, avec l'objectif commun de garantir la sécurité et la dignité des éléments concernés. Ce consensus a permis de mettre en place une opération complexe, mais nécessaire dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile.
Nous savons bien sûr que pendant 3 mois, ces soldats des FARDC et policiers ont été accueillis et protégés dans les camps de la MONUSCO à Goma. Comment expliquez-vous leur séjour au sein de ces camps?
En effet, à la suite de la prise de contrôle de certaines zones de la ville de Goma par le mouvement du 23 mars fin janvier 2025, plusieurs éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise se sont réfugiés dans les installations de la MONUSCO pour des raisons de sécurité. Conformément à son mandat et aux règles des Nations Unies, la mission a assuré leur désarmement immédiat, puis leur protection, notamment leur intégrité physique, leur sécurité et leur bien-être. Malgré l'environnement extrêmement volatile et les pressions sécuritaires, la MONUSCO a réussi à garantir la sécurité, l'intégrité physique et le bien-être de ces personnes sur la durée. Il s'agissait d'une mesure temporaire dans l'attente d'une solution concertée avec les autorités nationales et les partenaires.
Par quelle voie ces éléments de FARDC et de la police vont-ils rejoindre Kinshasa lorsqu'on sait que l'aéroport international de Goma n'est pas opérationnel?
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas divulguer les détails opérationnels et logistiques des itinéraires utilisés. Ce que nous pouvons confirmer, c'est que l'opération se déroule sous haute vigilance, avec le concours de plusieurs partenaires, et que les modalités de transport ont été définies en tenant compte de la situation sécuritaire actuelle. Ce convoi est planifié de manière à assurer la sécurité et la dignité des personnes transportées dans le plein respect des conventions de Genève.
Au cas où alors l'évacuation s'est faite, par exemple dans les zones de Rutshuru ou Lubero, qui sont contrôlées par des hommes armés, est-ce qu'il y a des mesures particulières pour sécuriser les convois?
Encore une fois, pour des raisons de sécurité, la MONUSCO ne communique pas publiquement sur les détails opérationnels. Toutefois, nous tenons à rassurer que toutes les précautions sont prises pour garantir la sécurité des personnes transportées. L'opération s'appuie sur le dialogue avec l'ensemble des parties concernées, le rôle du CICR en tant qu'intermédiaire neutre et sur une planification minutieuse tenant compte de la complexité du contexte sécuritaire.
Combien de militaires exactement sont concernés par cette opération?
Plusieurs centaines de personnes sont concernées par cette opération et cela inclut des éléments désarmés des forces armées de la République démocratique du Congo et de la PNC, ainsi que de quelques dépendants, notamment des membres de famille. Mais pour des raisons de confidentialité et de sécurité, la MONUSCO ne communique pas publiquement sur les chiffres exacts à ce stade. L'opération est toujours en cours et se déroulera en plusieurs étapes.
Madame Kadilo, porte-parole de la MONUSCO, merci.
Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Ce journal était mis en onde par Debs Evita. La coordination était assurée par Jude Mister Bilanda, sous la supervision de Pelekipe Lamondo. Au micro, c'était Noëlla Luzitu Kabambi. Restez à l'écoute des programmes de Radio Okapi.